Le texte que j'ai choisi ce matin pour la prédication nous parle d'une rencontre. Il n'y aura pas de lien forcément très proche avec ce qu'on a entendu de très fort déjà ce matin sur le thème du harcèlement, mais quand même un peu peut-être. C'est la rencontre entre Jésus et Nicodème, un pharisien de haut rang. Et je vous propose, avant de commenter le texte, tout premièrement de le lire, et on va le lire dans la version second 21 qui va s'afficher. Et comme je ne vois pas bien sur l'écran, du coup je vais le prendre sur mon téléphone. Donc c'est un texte qu'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 1 à 21. Or il y avait parmi les pharisiens, un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Nicodème vient trouver Jésus de nuit. C'est un détail du texte, un détail qui a fait couler beaucoup d'encre. Avait-il peur des autres Juifs? Voulait-il que son entourage n'en sache rien? Était-ce la seule façon d'être sûr, d'avoir un moment seul avec Jésus? Toutes ces interprétations, toutes ces lectures sont possibles. Certains pensent même que Nicodème était insomniaque, que ce détail révélerait cela. Peut-être était-il chargé d'une façon ou d'une autre, n'arrivait-il pas à trouver le sommeil. En fait, nous avons assez peu d'éléments quand même sur la personne de Nicodème. En plus de notre texte, nous avons seulement deux autres versets de l'évangile de Jean, où il est question de Nicodème. On peut les afficher là. Dans le premier texte, Nicodème prend la défense de Jésus. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'eux, dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Et en Jean 19, 39, Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Donc Nicodème prend la défense de Jésus et dans le deuxième texte, il apporte de la myrrhe, de l'aloès pour embaumer le corps de Jésus. Et à chaque fois, comme vous pouvez le lire, l'évangéliste Jean a soin de rapporter qu'il s'agit bien du même Nicodème. Peut-être il y avait d'autres personnes qui pouvaient s'appeler Nicodème. Non, mais c'est bien celui-là, celui qui était allé trouver Jésus de nuit. Donc c'est un détail qui est quand même répété 3 fois dans la Bible. Certains y voient une évolution du personnage de Nicodème, puisqu'en 2 ans environ, Nicodème a cheminé intérieurement. Il vient trouver d'abord Jésus de nuit dans notre texte, ensuite il prend sa défense, et enfin il ose se montrer publiquement pour Jésus, même en plein jour, en apportant ses aromates pour embaumer le corps de Jésus. Une autre interprétation est aussi possible. Souvent, les rabbins discutaient théologie jusque tard dans la nuit. Il y a même un verset qui dit « Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit, de façon à observer tout ce qui est écrit. » Et les rabbins juifs avaient cette habitude de discuter jusque tard dans la nuit. Nicodème aurait donc simplement respecté cette habitude des enseignants juifs de discuter jusqu'à pas d'heure. Et en plus, cela lui permettait d'aller voir Jésus en évitant aussi la foule. On peut tout à fait imaginer que cette tradition de parler théologie la nuit convenait bien à Nicodème. Cela lui permettait de rencontrer Jésus comme il était coutume de le faire entre maîtres juifs, et en même temps de ne pas s'afficher publiquement pour Jésus, pas tout de suite. Jésus d'ailleurs était un enseignant controversé, et ceux qui prenaient position pour Jésus pouvaient être exclus même des synagogues. On le voit un peu plus loin dans l'évangile de Jean. Nicodème prend donc un risque minime, mais il prend un risque tout de même en allant trouver Jésus de nuit, car il cherche la vérité. Il sait que Jésus est quelqu'un de spécial et que Dieu est avec lui. Car personne ne peut accomplir les signes miraculeux que Jésus accomplit si Dieu n'est pas avec lui. Mais il ignore peut-être que cette quête de vérité concernant l'identité de Jésus va le mettre devant un choix. La vérité n'est pas seulement quelque chose à recevoir, quelque chose à connaître, mais c'est une personne qui nous demande de le suivre, et cela nous engage bien plus. Dès le début de leur entretien, Jésus entre dans le vif du sujet, et là je vous relis tout simplement le verset 3. Nicodème vient juste de se présenter à Jésus, et Jésus directement lui dit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Première parole que Jésus adresse à Nicodème. Pour entrer dans le royaume de Dieu, nous dit Jésus, il faut naître de nouveau ou naître d'en haut, selon les traductions. Ce petit mot qui est utilisé en grec a les deux sens, soit naître de nouveau, soit naître d'en haut. Ailleurs dans l'évangile de Jean, d'ailleurs, ce petit mot est toujours traduit d'en haut. Il n'y a que là que des fois on le traduit par de nouveau. Qu'a voulu dire Jésus ? A-t-il voulu dire naître d'en haut, naître de nouveau, et qu'est-ce que ça signifie ? Certains pensent même que l'ambiguïté est volontaire. Nicodème semble comprendre naître de nouveau, étant donné la question qu'il pose après, mais comment peut-on naître quand on est déjà vieux ? Mais a-t-il bien compris ? Alors Jésus va même reformuler un petit peu la même idée, un peu plus loin dans le texte. Pour entrer dans le royaume de Dieu, nous dit-il, il faut naître, de nouveau ce même verbe, mais cette fois-ci d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit, naître de nouveau ou d'en haut, Tout cela représente la même réalité dans ce texte. Que veut dire Jésus alors par cette expression ? Nicodème n'a pas bien saisi la pensée de Jésus et pourtant, en tant que docteur du peuple d'Israël, Jésus lui dit « Mais tu devrais connaître ces choses ». Alors, si on cherche un petit peu dans l'Ancien Testament, parce que c'était le texte que Nicodème était censé connaître, on trouve d'ailleurs peu de textes où l'eau et l'esprit sont mentionnés ensemble. Il y a quelques textes où, effectivement, l'eau est un parallèle à l'esprit. On trouve ça dans le psaume, par exemple, 51, Ésaïe 4, Ésaïe 44, et le texte sans doute le plus clair, Ézéchiel, au chapitre 36, versets 25 à 27, que je vais vous lire. « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Donc l'eau, au sens figuré, représente ici une purification intérieure, le renouvellement de l'esprit. Dans l'évangile de Jean, d'ailleurs, l'eau représente aussi l'esprit. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Et ça, c'est un texte de Jean 7. On peut donc traduire cette expression « naître d'eau », c'est-à-dire d'esprit, comme d'ailleurs le fait, par exemple, je crois, la Bible du Semeur. Et on a même un autre texte encore qui contient cette même idée. Tite 3, verset 5, « Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit-Saint. » Et là, on a cette expression aussi, « la nouvelle naissance ». Une expression qu'on trouve assez peu, telle qu'elle, mais en tout cas dans le texte de Jean 3 et de Tite, chapitre 3 aussi. Donc l'eau ne fait pas allusion directement au baptême, dans ce passage, même si c'est le symbole qui est utilisé aussi dans le baptême, mais c'est une métaphore pour parler de l'œuvre de purification de l'Esprit-Saint. Il y a donc deux naissances. Deux naissances, nous dit Jésus. Il y a la naissance naturelle et la naissance spirituelle. Pour entrer dans le royaume de Dieu, pour être sauvé, il ne suffit pas de naître ici-bas, il faut naître d'en haut, ou de nouveau, ou d'eau et d'esprit. Et Jésus, ici, utilise... Alors, une excellente, vraiment excellente image, celle de la naissance. On s'en rend peut-être plus forcément compte parce qu'on a l'habitude de parler de nouvelle naissance. On en parle souvent et on réalise plus du coup que c'est une image que Jésus utilise là. Et alors je me suis un peu replongé dans cette image. Qu'est-ce que ça veut dire naître, tout simplement ? Nous avons tous vécu une expérience extraordinaire. Nous sommes nés. Alors, on ne se souvient pas de cette expérience et pourtant, elle a marqué notre vie. Ça, c'est clair. Avant de naître, nous ne connaissions pas grand-chose de la vie sur la terre telle que nous la vivons maintenant. On était baigné dans un liquide, le liquide amniotique. On entendait quand même, c'est prouvé, hein, on entend des sons, on entend notamment les battements du cœur de la maman, on entend même sa voix de l'intérieur, on peut même entendre des voix extérieures, mais on ne pouvait pas s'imaginer ce que ça voulait dire que voir quelque chose. on ne pouvait pas s'imaginer le magnifique monde dans lequel nous allions vivre, continuer à vivre, dans lequel nous allions naître. La naissance fut pour chacun d'entre nous, sans aucune exception, la découverte d'une vie dont nous ignorions l'existence auparavant. Et c'est ce que Jésus dit ici. Il parle d'une naissance. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau, vivre une expérience extraordinaire qui nous fera passer dans une réalité différente, un royaume dont on peut avoir quelques échos, où règne l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, la fidélité, la foi, la sagesse, etc. Jésus va dire que cette naissance merveilleuse, cette naissance spirituelle, dépend directement de lui. Si l'on veut vivre et entrer dans ce royaume de Dieu, il nous faut passer par une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance dépend directement de lui et de son œuvre à la croix. Et pour cela, il va évoquer un épisode du passé du peuple juif. Il dit, vous vous souvenez, Moïse avait élevé un serpent d'airain dans le désert. Et puis, donc, tous ceux qui étaient mordus par un serpent se précipitaient. Il fallait vite qu'ils aillent regarder ce serpent pour être guéris de la morsure qui pouvait être mortelle sinon. Eh bien, Jésus dit qu'il est en quelque sorte ce que ce serpent d'airain représentait. Nous sommes mordus et nous avons besoin de vite courir pour regarder celui qui a été élevé sur la croix. Ce serpent préfigurait l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus a dit « Quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et par cette expression, Jésus faisait allusion à la manière dont il allait mourir. Et c'est après tout ce dialogue que se situe le fameux verset de Jean 3,16. D'ailleurs, à un moment donné, Nicodème ne parle plus dans ce texte et Jésus continue, lui, à enseigner. Et nous avons ce fameux verset Jean 3,16 que vous connaissez pour beaucoup par cœur, ce verset qui nous donne la clé pour naître d'en haut. C'est par la foi en Jésus qu'on peut naître d'en haut et ainsi entrer dans le royaume de Dieu. Découvrir une nouvelle réalité dont on ignore l'existence tant qu'on n'est pas passé par là. Mais alors, si cette notion de naissance est d'un autre ordre que la naissance naturelle, si cette notion de naissance spirituelle est tellement importante, comment se fait-il que la Bible n'en parle que si peu ? Je disais tout à l'heure, on a ce texte de Jean 3 et un autre texte dans Tite 3, verset 5 que je vous avais cité. Deux textes qui nous parlent de naître de nouveau. Ça ferait peu pour fonder toute une doctrine de la conversion. Mais en fait, en regardant de plus près, l'idée de naissance, celle-ci, revient plusieurs fois dans le Nouveau Testament, avec des expressions légèrement différentes. Jean parle à plusieurs reprises de ceux qui sont nés de Dieu dans sa première épître. Paul mentionne ce qu'il a fait naître en Jésus-Christ. Et ensuite, il y a aussi toute la notion de la vie nouvelle chez Jean. Chez Paul, on a le thème de l'homme nouveau. Et Pierre utilise le verbe « renaître » aussi. Et Jacques dit que Dieu engendre selon sa volonté par la parole de vérité. Donc on voit bien que chez plusieurs auteurs du Nouveau Testament, cette image de la naissance est reprise. Elle est bien présente. Et on pourra encore ajouter à tous ces textes, de nombreux textes qui nous parlent d'une vie d'autrefois et d'un maintenant que nous avons compris, accepté la grâce de Dieu. Alors, un texte pareil, il ne suffit pas de le décortiquer et d'en comprendre son sens pour se dire « ça y est, c'est bon ». Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Ce texte nous invite à placer, on l'a déjà entendu plusieurs fois dans ce culte ce matin, à placer notre foi en Jésus. Peut-être c'est une démarche que vous avez faite, c'est une démarche que nous avons besoin des fois de renouveler dans notre vie. Nous avons besoin des fois de rafraîchir cela. La foi, de toute façon, la confiance en Dieu est l'enjeu de toute la vie du chrétien. Et c'est un apprentissage de toute la vie du chrétien. Mettre sa foi en Jésus pour toujours entrer dans ce royaume de Dieu. Un jour, on y sera pleinement. Sur cette terre, on ne peut faire qu'y entrer. On est au début. Si vous n'avez pas encore fait cette démarche, si ce royaume de Dieu dont j'ai parlé, dont les valeurs sont les choses les plus merveilleuses auxquelles on aspire, les besoins les plus profonds que l'on a au fond de son cœur, si ce royaume de Dieu-là vous parle mais que vous n'avez pas encore fait cette démarche de placer votre foi en Jésus-Christ, vous pouvez faire cette démarche maintenant dans votre cœur. Il n'y a pas de condition pour être accepté dans le royaume de Dieu autre que celle de placer sa confiance en Jésus-Christ. Vous pouvez aussi parler à un ami chrétien. On en a déjà entendu parler, c'est important d'aller vers des personnes aussi pour partager ce qu'on a sur le cœur, pour être libéré. Et je vais moi-même prier maintenant. Que ton œuvre est merveilleuse, notre Dieu. Tu peux faire de nous, de simples êtres humains, tes enfants, par la nouvelle naissance. Aussi loin que nous étions, tu es venu nous chercher, nous donner ta vie, et tu vas encore faire cette œuvre dans notre cœur, aujourd'hui, ce matin, que nous puissions nous approcher de toi avec, en plaçant notre foi en Jésus-Christ, mort à la croix pour nos péchés. Révèle-toi, Seigneur, au cœur de chacune et chacun, afin que ton Église vive de cette vie nouvelle que tu veux nous donner et cette vie éternelle que tu donnes gratuitement. Nous nous confions en toi, notre Dieu, dans les bons comme dans les mauvais jours. Amen.